Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information sur Radio Prague. En titre, l'ex-ministre de l'Éducation nationale quitte le parti Affaires publiques. Près de trois quarts des Tchèques estiment que la quasi-totalité des fonctionnaires sont corrompus. Et enfin, le projet de relance de la circulation fluviale sur l'Erbe rencontre l'opposition des écologistes. L'ex-ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch, ne serait plus membre de la direction du parti Affaires publiques. C'est ce qu'il a déclaré à l'agence tchèque de presse. Il n'aurait pas payé sa cotisation au parti, condition obligatoire au maintien de son statut de membre. Il remet désormais en question son statut de député et envisage également son départ de la Chambre des députés. La conférence des membres du parti Affaires publiques devrait rendre public dans les prochains jours le cas Dobesch. Le ministre avait présenté au président de la République sa démission du ministère de l'Éducation le 31 mars dernier. Depuis le début du mois d'avril, l'ex-ministre avait accepté de continuer de travailler au ministère de l'Éducation en tant que conseiller du ministre par intérim. Il a toutefois annoncé ce vendredi son départ définitif du ministère en raison du mécontentement de l'ensemble des employés. L'économie de la République tchèque ne serait pas en récession, contrairement à ce qui avait été annoncé en début d'année. C'est du moins l'avis de l'analyste de la banque italienne UniCredit, Pavel Sobicek. Conclusion optimiste fondée sur les révisions à la hausse de la balance commerciale tchèque. Le pays est considéré être en récession lorsque deux trimestres consécutifs présentent une diminution de l'activité économique. Selon l'Institut tchèque de statistique, le troisième et quatrième trimestre auraient connu une baisse de 0,1% de leur produit intérieur brut. Toutefois, l'augmentation de près de 7 milliards de l'excédent commercial au cours du dernier trimestre 2011 permet d'envisager une révision de l'évolution du PIB en fin d'année. Au lieu de la baisse observée par l'Institut de statistique, selon Pavel Sobicek, le quatrième trimestre aurait enregistré une augmentation de la productivité, notamment dans le secteur automobile, l'un des principaux moteurs de l'économie tchèque. Le ministère de l'Environnement du Land de Saxe s'oppose au plan de construction d'un barrage sur l'Elbe, près de la ville frontalière de Děčín. Le ministre considère que la présence d'un barrage aurait un effet négatif sur la nature jusqu'en Saxe, dont le fleuve traverse le territoire. Cette annonce a été faite via le site du ministère de l'Environnement de la Saxe et a été transmise directement aux homologues tchèques. La construction d'un barrage sur l'Elbe est l'un des maillons d'un vaste plan de relance de la circulation fluviale. Prague entend ainsi pouvoir prolonger jusqu'à 340 jours par an le droit de circuler sur le fleuve. L'utilisation de bateaux écologiques est parmi les principaux arguments avancés en faveur de la réalisation du projet. Toutefois, les écologistes des deux côtés de la frontière s'y opposent et soutiennent la position du ministre de la Saxe. Sondage, près de trois quarts des Tchèques estiment que la quasi-totalité des fonctionnaires sont corrompus. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé en mars par l'Agence pour l'étude de l'opinion publique. Le nombre des sondés convaincus de la corruption des responsables de la fonction publique a très nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Pour les sondés, la corruption serait la plus forte dans les partis politiques pour 81% d'entre eux, le gouvernement et les institutions centrales pour 69% d'entre eux. Les établissements scolaires et universitaires seraient, selon eux, dans ce domaine, la corruption la moins forte de toutes les institutions publiques. Culture enfant, Stephen Marley, le fils du célèbre artiste jamaïcain Bob Marley, est attendu avec son groupe le 30 mai à Prague, dans la salle de concert Luzerna Bar. Le groupe, qui a reçu de nombreux Grammy Awards, devrait, à côté des morceaux qui ont fait son succès, présenter son nouvel album intitulé Revelation.2. Fruit of Life. Pour les amateurs et les spécialistes, Stephen Marley est considéré comme celui des fils dont la voix et le sens musical est très proche de ceux de son illustre père. Demain samedi, le temps sera gris et pluvieux sur l'ensemble du pays, avec toutefois quelques éclaircies en fin de journée dans l'ouest du pays. Les températures continuent de descendre, elles seront comprises entre 4 et 12 degrés et continueront inlassablement de descendre durant le week-end. Le mercure remontera sans doute. À partir de mardi, nous fêterons demain les Hermann ou les Hermina. C'est la fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi, la suite du programme dans un instant.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Paul Bauer pour son bulletin d'information. Suite du feuilleton politique de ces jours-ci avec une crise gouvernementale qui en cette fin de semaine est un peu en sourdine avec l'approche des fêtes de Pâques. Sport ensuite avec de la boxe et la victoire écrasante de Lukáš Konečný contre le français Salim Larbi. Il est le premier tchèque à remporter le titre par intérim des poids super welters de la fédération WO. Bonne écoute de ce programme. « La crise gouvernementale tchèque semble s'atténuer après les situations conflictuelles de ces derniers jours. Les trois partis de la coalition gouvernementale se sont mis jeudi à la table des négociations et ont tempéré leur discours politique. Il est maintenant assez probable que la chute du gouvernement et le fantôme des élections anticipées soient conjurés, au moins jusqu'à la prochaine crise. Václav Richter.
Le parti Affaires publiques qui a déclenché ce conflit en décidant de retirer ses ministres du gouvernement renonce à cette décision et se déclare plutôt satisfait par les dernières négociations avec ses partenaires de coalition, le Parti civil-démocrate ODS et le parti Top 09. La suite des pourparlers est prévue pour mardi prochain, mais les trois partis ont déjà formulé sommairement leurs conditions. Pour l'ODS et Top 09, la condition sine qua non pour le renouvellement d'une collaboration au sein du gouvernement et la poursuite de la politique d'austérité. Tous les membres de la coalition doivent donc s'engager à faire tomber, dès l'année prochaine, le déficit budgétaire en dessous de 3% du PIB. Selon le Premier ministre Petr Nečas, la coalition doit surtout se pencher sur deux dossiers.
Le premier document concerne la révision de la déclaration programme du gouvernement et le deuxième sera le résultat des négociations des ministres des secteurs économiques sur l'approbation définitive des budgets pour les années 2013 et 2014. Si nous ne parvenons pas à un accord dans ces deux dossiers, il sera inutile de prolonger l'existence de ce gouvernement.
Le chef d'affaires publiques Radek Jón se félicite de ce que son parti ait réussi à imposer la majorité de ses revendications économiques. Il admet cependant que la suite des négociations risque encore d'être difficile. Le politologue de la faculté des lettres de l'université Charles de Prague, Milan Znoj, attire l'attention sur le caractère spectaculaire mais factice de cette tempête au sein de la coalition gouvernementale.
Je pense qu'aucun parti de la coalition ne voulait vraiment des élections anticipées. Ce qui est important, ce n'était que la façon dont ce conflit serait présenté au public. Je crois qu'à l'issue de ce conflit, le Premier ministre Petr Nečas, le ministre des Finances Miroslav Kalousek et le parti Top 09 raffermiront leur position à cause de leur pondération et de la rigueur de leur réaction. Et le parti Affaires publiques n'y gagnera rien parce que tout le monde se dira que le seul objectif de ce parti était de se maintenir au gouvernement.
Affaires publiques exige le remaniement du cabinet et la suppression de plusieurs ministères et il semble que la coalition pourrait se mettre d'accord sur ce point. La presse spécule d'ores et déjà sur les candidats à la suppression et cite dans ce contexte le plus souvent les ministères de l'aménagement du territoire, de la culture et de l'environnement. La réalisation de cette cure d'amaigrissement serait confiée à Carolina Pick, ministre étiquetée Affaires publiques. Le projet suscite cependant aussi des critiques. Le politologue Milan Znoj estime que l'administration de l'État tchèque a besoin d'une réforme d'un autre genre.
L'État doit assurer le service public et s'il veut l'assurer, il a besoin d'une administration fonctionnelle. Et le problème de cette société, de cet État et de cette politique, c'est que l'État devient non fonctionnel et l'administration fonctionne mal et se désagrège. Je préférerais donc le concept de consolidation, l'amélioration de l'efficacité de l'administration d'État et non pas la suppression de ministères parce que c'est alléchant, certes, mais le résultat risque d'être pire que la situation précédente.
Selon l'agence Factum Invenio, qui a publié les résultats de son dernier sondage, si des élections avaient lieu maintenant, Affaires publiques n'obtiendrait que 1,4% des suffrages et serait balayée de l'échiquier politique. Il est donc dans son intérêt vital de trouver un consensus avec les deux autres membres de la coalition.
La République tchèque possède le premier champion du monde professionnel de boxe de son histoire. Vainqueur du français Salim Larbi par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise jeudi soir à Brno, Lukáš Konečný a en effet remporté le titre par intérim vacant des poids super welters de la WBO, une des 4 fédérations internationales de boxe. Guillaume Narraguet.
Grand favori avant le combat, Lukáš Konečný a eu besoin de 7 rounds pour prendre définitivement la mesure de Salim Larbi. Avant de se retrouver KO, victime d'un enchaînement au corps et à la face, le jeune Lyonnais d'origine algérienne a toutefois joué crânement sa chance, comme en témoignait le nez en sang du Tchèque à sa descente du ring. Une ardeur au combat néanmoins insuffisante pour inquiéter outre mesure Lukáš Konečný, c'est du moins ce qu'affirmait ce dernier.
Ça n'a pas été un match difficile. Je savais avant même de monter sur le ring que mon adversaire n'avait pas la force suffisante pour me battre. J'ai donc misé sur ma puissance et c'était un bon choix. Peut-être que si j'avais respecté les consignes de mon entraîneur, j'aurais pu l'envoyer au tapis plus tôt encore et je n'aurais pas toutes ces écorchures sur la gueule. Mais je savais que j'étais plus fort que lui et ça ne m'a pas empêché de mener un combat mieux maîtrisé techniquement ou tactiquement.
À 33 ans et après plusieurs longues années d'attente, Lukasz Konieczny, déjà champion d'Europe en titre des Super Walter, a donc enfin atteint le grand objectif de sa carrière, à savoir s'emparer d'une ceinture mondiale. Une satisfaction d'autant plus grande que cette victoire a été obtenue à l'issue d'un combat de haute volée, le Français, bien que dominé dès les premiers rounds, ne rendant les armes qu'une fois au tapis. Le Tchèque, surnommé le chirurgien, n'a d'ailleurs pas oublié de saluer le courage de Salim Larbi.
Oui,
il a résisté, il s'est accroché, c'est sûr. Techniquement, il est plutôt bon, mais c'est encore un jeune boxeur. Il lui manque encore de l'expérience. Il n'était pas suffisamment dur au mal. Il a senti mes coups au corps dès le début du combat et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Plus le combat avançait, plus je voyais qu'il avait du mal à avancer sur le ring, qu'il ne pouvait pas respirer et qu'il avait peur de reprendre des coups aux mêmes endroits. Mais je dois quand même reconnaître qu'il m'a fallu du temps avant de le toucher pour de bon.
Poussé par un public de Brno entièrement acquis à sa cause, Lukasz Konieczny, qui a signé contre Larbi la 47e victoire de sa carrière pour 3 défaites, était très ému à la fin du combat. Mais après de longs mois de travail, c'est d'abord une forme de soulagement que le Tchèque ressentait.
Je suis content, je savais que j'étais favori et que je devais gagner. Bien sûr, je savais aussi que je pouvais perdre, mais j'étais quand même plus ou moins dans l'obligation de gagner. Ce n'est pas la même chose de gagner un combat dont vous êtes le favori et que vous êtes censé gagner, ou un match disputé, par exemple, chez un tenant du titre dans son pays. Je savais que j'étais meilleur que Larbi sur le papier et je suis content de l'avoir confirmé sur le ring.
Champion du monde par intérim, Lukasz Konieczny sera en tant que tel contraint de remettre sa ceinture en jeu dans les 90 jours à venir. Son prochain combat devrait donc l'opposer au russe Zaurbek Baysangurov, qu'il aurait déjà dû affronter le 10 mars dernier en Ukraine. Le russe, alors champion WBO de la catégorie, avait toutefois déclaré forfait en raison d'une blessure, laissant ainsi temporairement vacant le titre. Un titre que Lukasz Konieczny a donc fait sien, et même si cela ne doit être que temporairement, cela suffit pour l'heure largement à son bonheur d'être devenu le premier boxeur tchèque champion du monde professionnel.
Voilà, on passe à la deuxième partie de notre programme, le jeu vidéo Mafia, sorti en 2002, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, est une vraie success story. Le jeu a été développé à l'époque par un petit studio d'informatique qui s'est depuis agrandi. Il s'agit aujourd'hui de la société 2K Tchèque, dirigée par un Français, Stéphane Dupas. On l'écoute au micro d'Anne-Claire Veluire dans une rediffusion du 17 décembre 2010.
Économie, commerce.
Bonjour Stéphane Dupas. Stéphane Dupas, vous êtes président de la société 2K Tchèque, une société de développement de jeux vidéo qui est basée ici en République Tchèque. Je me trompe déjà ou
Non, bonjour. Vous avez, jusque-là, vous avez tout bon.
D'accord. La société s'est fait connaître notamment avec le succès d'un jeu vidéo qui s'appelle Mafia, qui a été un vrai succès international. Avant de parler de ce jeu vidéo, je vais vous laisser tout simplement nous présenter un peu cette société.
Alors, notre studio de développement a été créé en 1996 par des Tchèques qui avaient envie de se lancer dans l'industrie du jeu vidéo et de démontrer un peu la créativité du pays. C'est à cette époque-là qu'ils ont décidé de faire ce jeu Mafia 1, qui a été effectivement un succès partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qui a vendu des millions d'exemplaires. Suite à ce succès-là, ils ont pu faire d'autres jeux, jusqu'à aujourd'hui, où on est un des studios les plus grands en Europe, avec 200 employés. On continue à développer le concept Mafia avec les créateurs originaux du jeu. Et on appartient aujourd'hui à un grand groupe américain, qui est numéro 4 dans le monde de l'édition du jeu vidéo.
Alors je vous concède que quand j'ai contacté la société Mafia, je m'attendais à trouver des interlocuteurs, on va dire, uniquement tchèques, et je me retrouve avec un président de la société qui est français. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous êtes venu ici en République tchèque et comment vous en êtes venu être le président de Deka Tchèque?
Alors ce qui est important de garder en mémoire, c'est que bien qu'aujourd'hui il y a un Français qui soit directeur du studio, ce sont bien des Tchèques qui sont à l'origine du design, des graphismes, de l'aspect cinématographique, de l'histoire du jeu. Il se trouve que quand en 2008 le studio a attiré l'attention de la société américaine, il se trouvait que je travaillais pour cette société dans un autre pays, à faire d'autres projets, et que quand ils m'ont proposé de rejoindre la République tchèque, de pouvoir participer à Mafia, de pouvoir faire grandir ce studio, on a souhaité, quelques-uns de mes collègues et moi, venir et tenter l'expérience ici. Donc ce qu'on essaye de leur apporter, c'est notre expérience de 15 ans du jeu, d'organisation, de méthode, et d'essayer de combiner notre expérience et leur créativité pour faire de nos projets les jeux les plus intéressants du monde.
Les compétences des développeurs de jeux vidéo français sont connues dans le monde entier, c'était pas forcément le cas pour les Tchèques, et en même temps c'est eux qui ont réussi à faire vraiment ce succès-là, ce Mafia. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement des développeurs tchèques? Est-ce que dans le monde du jeu vidéo, c'était connu qu'ici en République tchèque, des jeunes gens, j'imagine, travaillaient sur ce projet et avaient des compétences en matière de développement de jeux vidéo qui étaient connues?
Alors, je dois quand même reconnaître que l'équipe avec laquelle on a la chance de travailler, c'est un peu une exception, en fait, en Europe centrale, puisque l'Europe centrale, elle est plutôt connue pour sa sous-traitance dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a des ingénieurs de talent, il y a des graphistes de talent, mais en général, il y a très très peu d'équipes qui ont eu la chance ou le talent de pouvoir faire leur propre titre. Donc si on regarde l'industrie du jeu en Europe de l'Est et en Europe centrale globalement, même au-delà de la République tchèque, on est vraiment le seul studio qui aujourd'hui est en mesure de faire des produits qui vendent des millions d'exemplaires aux États-Unis, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver en France où on a Ubisoft, on a une densité de studios assez grande. Ici, c'était beaucoup, beaucoup de sous-traitance, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement un peu du succès de Mafia? Qu'est-ce qui a fait le succès de ce jeu?
Ce qui a fait le succès de Mafia, le premier, c'est vraiment une approche complètement fraîche par rapport au marché, de quelque chose qui combine des éléments interactifs très ambitieux, puisqu'on a une ville ouverte énorme dans laquelle on peut conduire, marcher, interagir avec des piétons, vivre une vie quasiment quotidienne, avec en même temps un contenu cinématographique, un héros qui a une histoire, à qui il arrive des choses qui sont intéressantes, qui va interagir avec des personnages qui sont en couleur, qui vont le surprendre, qui vont le trahir parfois, et ces combinaisons de ce que l'interactivité peut amener de mieux en termes d'ambition, avec un contenu qui est vraiment distrayant, hollywoodien pratiquement, c'est ça qui fait en fait le succès de la franchise, avec une thématique de gangster qui est, comme on l'imagine assez vite, assez propice à de l'action, des choses intéressantes, assez renouvelées à faire.
Est-ce que le fait d'être racheté par une grande société internationale, c'est pas un risque, on va dire, d'étouffer cette créativité?
Si, c'est un risque d'étouffer cette créativité, bien sûr, et on passe énormément de temps à faire en sorte que ça n'arrive pas, sachant que contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres industries qui sont autour de l'informatique ou de l'industrie, il y a beaucoup de sociétés étrangères qui viennent ici en République tchèque pour faire de la sous-traitance, pour déléguer une partie de leurs activités, pour des raisons salariales, pour des raisons de proximité, de transport, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique. C'est-à-dire que en tant qu'éditeur, ce qui a intéressé les Américains, c'est le talent des gens aujourd'hui. C'est de leur donner plus de moyens pour s'exprimer encore mieux sur ce qu'ils avaient envie de faire. Donc le propos, c'est plutôt de grandir le studio, d'aller au-delà de 200 personnes, de leur donner plus de projets et plus de possibilités de s'exprimer. Donc le risque, il est là, mais c'est vrai que l'intention, elle est vraiment l'opposé de ça.
Le talent des jeunes programmeurs, graphistes, est-ce qu'il est encouragé, développeur en République tchèque? Je veux demander par là, est-ce qu'il y a des bonnes écoles pour tout ce qui est développement informatique ici?
C'est un petit peu difficile. Je pense qu'en République tchèque, il y a une culture graphique qui est assez intéressante. On trouve des écoles qui forment des gens au métier de l'animation, par exemple. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sous-traitance d'animation, de grands films. Puis il y a une tradition, je pense, dans cette partie de l'Europe, de faire des films visuels, des contes de fées, des choses comme ça. Donc au niveau visuel, on trouve énormément de gens qui ont énormément de talent. Je dirais qu'ils sont au même niveau que n'importe qui d'autre dans le monde. Au niveau informatique, c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas, si on compare par rapport au système français, des écoles d'ingénieurs informatiques où on peut identifier une formation, un set de compétences. Ici, c'est l'université. C'est pas toujours évident d'arriver à identifier les gens. Donc, on trouve beaucoup de gens qui ont du potentiel. Mais c'est vrai que notre travail de recrutement, il est beaucoup plus précis, il est beaucoup plus long. Les tests et l'identification des gens, c'est plus compliqué que ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Ouais.
Alors, mais maintenant, vous êtes une vraie équipe internationale.
Alors aujourd'hui, on est une équipe internationale. Donc sur les 200 personnes, on a plus de 80% de gens qui sont tchèques, avec des gens qui sont avec nous depuis longtemps et beaucoup de turnover. On embauche 2 personnes par mois. Donc on essaie vraiment de donner leur chance aux jeunes tchèques. Et puis 20% sur une dizaine de nationalités, des gens qui viennent du côté est de l'Europe et puis des gens qui viennent de l'ouest. On est aujourd'hui une quinzaine de Français, par exemple, à l'intérieur du studio.
Comment ça se passe pour organiser, manager une équipe internationale?
Alors ce qui est difficile pour nous, et je pense la difficulté en République tchèque, c'est vraiment la barrière de la langue. Je pense que pour nous d'apprendre le tchèque, mais comme pour eux d'apprendre le français, c'est quelque chose qui serait vraiment délicat. Là où on a beaucoup de soucis, c'est que comme ils sont à l'origine des jeux, qu'on a beaucoup de débats sur la direction artistique, sur le design, sur l'histoire, sur les orientations créatives qu'on doit avoir. C'est vrai que d'arriver à échanger de manière constructive, bien se comprendre, être bien certain de ce qu'on fait, ça c'est vrai que c'est difficile. Donc sur ça, on a quand même une barrière de la langue. Après, l'aspect international, ça aide. Parce que je pense que les Tchèques ont d'excellentes intuitions, mais ils n'ont pas forcément une connaissance très précise des goûts et des envies des gens, je vais dire de l'Ouest, sans que ce soit péjoratif, mais de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, là où le marché du jeu vidéo est, en fait, nos consommateurs sont là. Donc l'apport de gens qui viennent de ces pays-là, qui peuvent leur expliquer que les jeux, il faut que ce soit facile, c'est important que ce soit beau, ça crée une dynamique qui est plutôt positive.
Alors la République tchèque, j'imagine, est un tout petit marché du jeu vidéo dans le monde, mais est-ce que c'est un marché qui est en développement? Quelles sont, on va dire, ses caractéristiques?
Alors, le marché tchèque du jeu vidéo, et c'est vraiment un tout petit marché, ça c'est certain. Ses caractéristiques principales, c'est d'être beaucoup un marché PC, pas tellement un marché console. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ticket d'entrée pour les consoles qui est quand même assez élevé. Vous prenez une console, plus l'abonnement online, plus un jeu, ça va faire 200, 300, 400, 500 euros assez rapidement. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas adapté, je pense, au pouvoir d'achat moyen des gens en République tchèque. Par contre, sur PC, c'est quelque chose qu'on a pour Internet. On trouve des jeux qui sont à des prix très raisonnables. Donc le marché tchèque, la culture jeu tchèque, elle est sur PC, pas forcément sur les dernières sorties, mais sur des très très bons jeux d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, qui sont vendus à des prix très raisonnables.
Alors, Mafia 1 a été créé, ou a commencé à être créé il y a une dizaine d'années maintenant. Vous m'avez dit que de fabriquer un jeu vidéo, ça prend beaucoup de temps, c'est un long processus. Vous venez de sortir un deuxième épisode de Mafia. Est-ce que vous espérez le même succès? Comment se présentent, on va dire, les premières semaines de sortie de ce nouvel épisode?
Depuis que Mafia 2 est sorti, il y a quelques temps, je pense que la période de Noël est terminée, donc on a une bonne idée du succès. Je suis content et assez fier de vous dire que le succès de Mafia 2, il est vraiment dans la droite lignée de Mafia 1. On a réussi à faire cette transition qui n'était pas facile, puisque il y a 10 ans sur PC, le marché avait certaines attentes en termes de difficulté, de contenu, de type de jeu. Donc pour nous, ce qui était important, c'est de rester fidèle au premier, tout en apportant un design, une conception qui soit adaptée aux attentes des gens aujourd'hui. Et apparemment, si je regarde les chiffres de vente, j'ai l'impression que les gens ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans le jeu. Donc on est vraiment dans cette droite ligne-là, et que ce soit l'équipe de développement fière de son travail, je pense moi en tant que président de la société, j'en suis aussi content, et je pense à mes actionnaires américains, eux aussi, je pense qu'ils ont l'impression qu'il y a quelques années, quand ils ont décidé d'investir en République tchèque, c'était vraiment une très très bonne idée, et qu'aujourd'hui on a envie de continuer sur cette dynamique.
Voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, et ce sous forme d'articles, en podcast, mais également en streaming. N'oubliez pas de vous connecter, évidemment, sur internet ou par satellite ce week-end, car vous retrouverez évidemment toutes les rubriques habituelles du week-end, et également lundi, où nous vous proposons une émission spéciale Fête de Pâques. Au nom de toute la rédaction de Radio Prague, je vous souhaite de très très agréables fêtes pascales. Merci de votre fidélité, bon vent, ahoy.